enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous allons continuer avec la série sur l'onction, avec un message intitulé « La protection ». Et l'approfondissement de l'onction. Comment protéger l'onction de Dieu sur chacune de nos vies? Comment défendre et protéger l'onction afin que l'ennemi ne vienne pas la voler, afin que chaque personne puisse marcher dans l'épanouissement de l'onction? Et j'aimerais débuter ce message ce matin, dans le cadre de cette série sur l'onction, j'aimerais débuter ce message avec cette déclaration de foi. Il n'y a pas de limite à ce que l'onction de Dieu peut accomplir. Alors, vous allez devoir m'aider. Je reviens d'Afrique la semaine dernière, dimanche dernier, il y a 7 jours, j'étais en Afrique et dimanche passé, on était à la maison présidentielle. Le président du pays nous avait invités à aller et on a apporté la parole. Et vous savez, une déclaration comme ça, j'ai encore la moitié de mon cœur en Afrique et ici, c'est un voyage magnifique avec toutes sortes d'aventures, dont juste l'itinéraire. Montréal, Washington, Washington, Rome, Rome, Addis Ababa, Éthiopie, Éthiopie, Ouganda, Ouganda, Burundi, Bujumbura, 3 heures de voiture pour me rendre à Gitega et ils ont perdu mes valises. C'était assez extraordinaire avec des chemises empruntées, des bas et le reste pendant 3 ou 4 jours, les pantalons qui se tenaient tout seuls dans le coin. Et au retour, la même chose, le même itinéraire que je vous épargne, ils ont encore une fois perdu mes valises au retour aussi. Mais vous savez, lorsqu'on est au Burundi, j'aurais fait une... Il va falloir que vous m'aidiez un peu ce matin alors que je suis en transition, en décalage, la moitié de mon cœur est encore là-bas. Et lorsque les frères burundais, les églises du Burundi, lorsque tu dis quelque chose du genre, il n'y a pas de limite à ce que l'onction peut accomplir. Pasteur Philippe, tu es au courant qu'il y a un amen qui résonne partout dans les montagnes du pays au complet. Alors j'aimerais que tout le monde soit burundais pendant une seconde ce matin et j'aimerais vous déclarer, il n'y a pas de limite à ce que l'onction peut accomplir. La parole de Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et l'Éternel m'a donné l'onction pour apporter une bonne nouvelle. Il n'y a pas de limite pour vous ce matin, de Bujumbura à ici ce matin, et où que vous soyez dans le monde alors que vous entendez ce message, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire par l'onction de son Esprit. Il a une bonne nouvelle pour ceux qui sont malheureux, pour guérir les cœurs qui sont brisés, consoler, libérer ceux qui sont captifs, leur donner un vêtement, la splendeur au lieu des cendres, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je veux déclarer à chaque homme ou femme au son de ma voix que la promesse de Dieu est intacte, que Jésus, il n'y a pas un iota dans le caractère de Dieu qui a changé et l'onction de Dieu est ici ce matin. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que vient essayer d'oppresser ta vie, quel que soit ce qu'a été ton passé, l'onction de Dieu encore est une bonne nouvelle. Elle donne un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu et elle peut relever chaque homme ou femme qui en a besoin ce matin. Donc, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans une personne, dans un jeune homme, une jeune fille, un couple, une famille, dans ton entreprise, dans ton appel, dans ton ministère, dans ton église. Et je dirais même ceci, et Dieu élargit nos cœurs, notre foi s'élargit d'année en année. Alors que je regarde la suite de ce passage d'Ésaïe et je déclare, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire, non seulement dans une personne, une famille, une église, un couple, dans un ministère, mais même il n'y a pas de limite à ce que l'onction de Dieu peut faire, même dans un pays, même pour restaurer une nation. Le texte continue en disant, l'onction du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour... Et voici ce qui va, quelles vont être les marques de ceux qui marchent dans cette onction. Donner de la splendeur au lieu des cendres, vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu. Ils rebâtiront là où il y avait des ruines. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Au lieu de la honte et de la peur, ils trouveront une nouvelle joie et une double portion d'abondance pour leur pays. Bien-aimé, j'ai vu l'accomplissement, le début de l'accomplissement de ces versets bibliques-là, de cette promesse-là, que l'onction peut changer des hommes, des femmes, des personnes, et que l'onction peut changer même un pays. Alors qu'on a visité nos frères et nos sœurs du Burundi. Le Burundi, et plusieurs d'entre vous avaient écrit, je veux vous remercier pour vos prières, et plusieurs ont écrit pour avoir des portions de témoignages dans les prochaines semaines ou mois. Il y avait une équipe de vidéos qui était là. On va vous présenter plusieurs vidéos qui ont été faites, qu'on n'a pas ce matin, mais je veux seulement donner un mot de témoignage parce que ma coupe est pleine de foi ce matin, qu'il n'y a pas de limite à ce que l'onction peut faire, même pour un pays. Le pays du Burundi est un pays de 7 millions d'habitants tout près du Rwanda, la Tanzanie, le Congo, ces pays qui les entourent, et il y a près de 1 million de chrétiens dans le pays. C'est un pays qui a la même sociologie, les mêmes défis que des pays comme le Rwanda, avec une potentialité de grands conflits ethniques, alors que le Rwanda a été dans l'actualité mondiale pour le génocide qui a pris place en 93, 94, ou même sur une période de 100 jours. Plus de 800 000 à 1 million de personnes sont décédées. Le pays du Burundi, en 1960, en 72, en 80 et aussi en 93, 94, au moment où le Rwanda vivait son génocide, le pays du Burundi a aussi vécu, et sur de longues, sur les dernières années, sur les derniers 8 ans, 10 ans, il y a eu, et un peu plus, il y a eu jusqu'à près de 250 000, un quart de million de personnes qui sont décédées dans différents conflits. C'est Hutu contre Tutsi et Tutsi contre Hutu, mais aussi Hutu sur Hutu et Tutsi. Il y a toutes sortes de conflits et toutes sortes de d'éclatements de violences inouïes qui ont pris place. Et ces versets de Ésaïe, d'une ville, d'un peuple qui est ravagé, qui est dévasté, où il y a des ruines depuis longtemps, et quelque chose que nous avons vu non seulement dans le pays, c'est un pays de paradoxe parce que c'est un pays magnifique. Un pays à couper le souffle dans sa beauté, et non seulement les paysages, mais à couper le souffle dans la beauté et l'attachement qu'on ressent pour son peuple. Les gens du Burundi sont des gens extrêmement attachants. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont extrêmement remplis de douceur, remplis de bienveillance, de bonté. Et nous voyons Dieu faire une action surnaturelle dans ce pays. Et une des choses qui prend place, il y a 1 million de chrétiens dans le pays, mais une des choses qui prend place, c'est que l'Église du Seigneur se lève avec une voix de réconciliation, une voix de paix. On a rencontré beaucoup de toutes sortes de chrétiens. Tout le monde a une histoire de génocide terrorisante et déchirante. On a rencontré une dame qui était là, qui avait 100 membres de sa famille, ou plus de 100, père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, neveu, nièce, fils, fille, 100 personnes de sa famille qui ont été massacrées pendant le génocide. Et on découvre là-bas une Église qui est remplie de foi, rempli de confiance en Dieu, et il y a des particularités parce que le président du pays est un chrétien évangélique engagé. Alors qu'il était pendant 10 ans dans la brousse, dans la résistance, il est venu à la foi, il a été fondé dans la foi, et on a rencontré les protagonistes, les personnes, après avoir été en brousse et qu'il y avait une guerre qui a continué pendant 10 ans. Vous savez, le Burundi a eu seulement 2 autres présidents avant lui qui avaient été élus démocratiquement dans toutes leurs années d'histoire, sur plusieurs décennies, et les 2 autres ont été assassinés en moins de 3 mois. Et lui, alors qu'il était dans la résistance, est venu à la foi, et c'est très particulier parce que ses soldats qui étaient avec lui, beaucoup d'entre eux qui avaient commencé avec lui comme des enfants, sont devenus sa chorale, parce que plusieurs d'entre eux ont donné leur vie au Seigneur. Et un jour, on a rencontré le pasteur, c'est un ami personnel, le pasteur Philippe Jaurès, que j'ai connu aussi. On est arrivé à une église qui s'appelle Bon Berger, et lorsqu'on est arrivé là-bas, le pasteur nous a raconté comment il a reçu un appel, alors que le gouvernement avait fait des négociations avec le chef qui était à ce moment-là de la résistance. Il a dit, revenez, on va faire un cessez-le-feu et tout ça. Et le pasteur a reçu un appel, et le chef de la résistance, qui était celui qui est le président aujourd'hui maintenant, a appelé le pasteur et a dit, si dimanche prochain, on va être à l'église. Si vous nous accueillez, nous sommes des frères, nous allons venir à l'église, on veut que vous priez pour nous. Après ça, on s'en va au palais, on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être qu'ils vont nous enlever la vie, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est des choses qui arrivent qui est arrivé dans ce pays-là auparavant. Alors le dimanche, le pasteur m'a dit, quel dimanche de voir arriver le chef de l'armée avec tous ces soldats qui avaient été dans la brousse depuis 10 ans en guérilla, en jean, ligne coupée avec les mitraillettes et les machettes, se sont tous approchés en avant, déposés leurs armes et ont dit, pasteur, priez pour nous, peut-être que demain on va mourir, mais on met nos vies dans la main de Dieu. Et Pierre Nkurunziza, qui était le leader à ce moment-là, s'est agenouillé puis a prié, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Où tu voudras, fais de moi ce que tu veux. Le lendemain, il est allé au palais. Le premier ministre en a fait un ministre. Quelques années plus tard, il est devenu le président du pays. Et c'est vraiment quelque chose d'assez saisissant. On a fait une conférence de pasteurs avec entre 3 et 4 000 pasteurs. Le président est venu assister. On a fait une croisade publique avec 30 000 personnes dans un champ de football, de soccer. Et c'était à la radio nationale dans 5 pays autour, live. Et le président est arrivé, est venu assister et a conduit la louange avec sa chorale et a conduit le peuple en prière. Combien croient que ça fait du bien d'avoir un président conduire le peuple dans la présence de Dieu? Vous avez des photos lorsqu'il est retourné à Bonberger et qu'il conduit, il chante et conduit. Il a conduit la semaine dernière la chorale. La chorale s'appelle Komeza Gusenga, qui veut dire littéralement « Ne t'arrête pas de prier ». La chorale du président est venue chanter à nos conférences de pasteurs, venue chanter dans les croisades et elle chante la gloire de Dieu. Et Dieu orchestrait des choses magnifiques. Alors que tous ces changements-là prenaient place au Burundi, il y a un homme qui était ici en exil, Gabriel Pozagara, qui lui a commencé à venir à l'Église Nouvelle Vie ici à Longueuil, s'est fondé dans la foi, il a pris un cours biblique avec nous dans notre collège biblique, il a été formé, ne sachant pas ce qui était pour arriver, mais sentait que Dieu l'appelait à se former dans les Écritures, et peu après est retourné dans son pays, le président l'a appelé parce qu'il avait un arrière-plan politique, il est maintenant un conseiller numéro un du président, il est là avec lui. Le président a plusieurs personnes qui ont donné leur vie au Seigneur autour de lui. Le général de l'armée, le patron de la sécurité du président, a donné sa vie au Seigneur et prend des cours bibliques. L'épouse du président prend des cours bibliques avec l'ITF, prend des cours avec notre collège biblique ici. Le premier vice-président est un docteur en médecine, docteur Martin, le ministre de la Santé aussi, mais premier vice-président. Et il a été extrêmement béni parce qu'on avait une équipe avec New York qui était là. Je me suis joint à l'équipe de Times Square Church à New York, de 80 médecins, infirmières, dentistes. Il y a des tonnes de nourriture qui ont été données, des tonnes de médicaments, des médecins de différents endroits du monde qui étaient là. Il y avait même un médecin de New York qui ne connaissait pas le Seigneur et qui est venu pour faire de l'œuvre missionnaire. Et vous savez, il n'y a pas de limite à ce que Dieu va faire pour attirer votre attention. Ce médecin-là, multimillionnaire, un des meilleurs cardiologues de New York, et le pasteur Carter avait été le visiter pour un examen annuel, il lui parlait de Dieu et tout ça, il avait un arrière-plan protestant, mais absolument aucun attachement à l'Église, il n'avait pas le temps, trop occupé, et c'est un Asiatique et puis Coréen, et il lui parlait de Dieu, et il n'était pas intéressé, puis un jour, le pasteur Carter lui a dit, vous savez, c'est surprenant tout ce que Dieu peut faire pour attirer votre attention, Dieu va attirer votre attention. Et quelques semaines plus tard, il y a quelqu'un, vous avez peut-être vu ça dans l'actualité, il y a un homme qui s'en allait en avion, qui a perdu le contrôle, puis qui a foncé dans un gratte-ciel. Il a foncé directement dans l'appartement du médecin. Le nez de l'avion a rentré dans son salon. L'appartement a explosé, puis lui n'était pas là. Et dans les jours qui ont suivi, il a appelé Pastor Carter, puis il a dit, « Je pense que Dieu veut attirer mon attention, je vais aller en Afrique avec vous. » Et lors de la croisade, j'ai vu une scène magnifique, le vice-président du pays prendre le médecin de New York par la main et les deux danser dans la louange, dans la présence de Dieu, les deux célébrer la bonté. Vous devriez dire amen. On a été invité à faire une assemblée devant tous les membres du Parlement, gouvernement. J'étais assis à côté de la leader de tout le Parlement pour le pays. Et on a parlé de la foi, parlé comment Dieu les appelait, comment la justice, comment l'intégrité, la passion pour les pauvres peut changer un pays, comment Dieu les appelait à combattre la corruption et à être des voix pour leur pays. Et le docteur, qui est vice-président du pays, la chorale de New York, a chanté un chant et on était tous là. C'est très protocolaire. On était dans un endroit politique. Et le vice-président a pris le micro et a dit, nous voulons nous excuser auprès de nos frères du Canada et des États-Unis, mais lorsqu'on entend un chant comme ça, un chant de célébration, nous ne pouvons pas seulement rester assis. Alors, la chorale, je vais vous demander de le rechanter une autre fois, et je vais inviter tous les membres du cabinet qui le désirent à venir danser avec nous. Et là, tout le monde s'est levé et a commencé à célébrer. Et même les Québécois qui ne savent pas danser, que c'est comme de déménager un bahut, on a fait ce qu'on pouvait pour... Combien croient qu'il y a un jour nouveau où l'onction de Dieu fait des choses extraordinaires que l'œil n'avait pas vues? 3 à 4 000 pasteurs qu'on a déjà apporté la parole 4 ou 5 fois. 3 à 4 000 pasteurs qui venaient de partout dans le pays puis qui ont une foi pour le pays. Le dimanche matin, on a eu une audience privée avec le président qui était fier de nous montrer un rapport tout récent du International World Bank, de la Banque internationale, qui est allé inspecter toutes leurs finances du pays et qui leur a donné la meilleure cote, la cote d'intégrité A1, et qui a dit le Burundi va devenir un modèle pour tous les pays des Grands Lacs de comment rebâtir un pays après un génocide. Et le président a dit au président de la World Bank, c'est à cause de la foi en Dieu, c'est à cause de Dieu qu'on est ici, et c'est Dieu qui nous a placés ici. Et l'ONU, au mois de septembre, a invité le président à venir s'adresser aux Nations Unies en entière. Et le pays entier nous rappelle qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire pour rebâtir une personne, rebâtir un pays. J'aimerais vous dire, où que vous soyez, l'onction de Dieu peut vous rejoindre. Ici, dans ce lieu ce matin, et ceux qui vont l'écouter par la radio ou l'Internet, où que vous soyez, vous vous pensez oublié, vous pensez loin, vous pensez que vous êtes hors de la main de Dieu ou hors de l'attention de Dieu, où que vous soyez, l'onction de Dieu peut vous rejoindre. Le peuple le plus pauvre du Burundi est le peuple Tua. C'est les aborigènes du pays là-bas, ils vivent dans les montagnes et dans une pauvreté indescriptible. Et un des villages qui était là avait connu une épidémie qui avait fait que leur bétail était décédé. Ça semble banal pour nous, mais ils n'avaient pas, il n'y a pas d'eau courante, bien sûr, pas d'électricité, pas tout ça. Mais leur survie était dans leur bétail, puis ils avaient perdu le petit troupeau qu'ils avaient. Et il y a des gens qui avaient depuis des années apporté la foi à ce village. Il y avait beaucoup de chrétiens dans ce village. Et lorsque l'équipe de New York a appris cela, le pasteur Carter a eu à cœur, et c'est un effort extraordinaire, ils ont littéralement acheté un troupeau de bétail. Ils ont acheté des chèvres, des poules, etc. Et le pasteur Carter est pasteur d'une église de 7 000 personnes à New York, mais il a monté la colline avec 2 chèvres dans ses mains. Il a monté la colline et ont été portés ça. Et eux, lorsqu'ils sont en montant la montagne, ils entendaient les gens qui chantaient un chant en Kirundi. Et lorsqu'ils sont arrivés en haut, les gens chantaient, tout le village chantait et chantait à Dieu. Et les paroles du chant étaient ceci. Seulement Dieu pouvait faire ça. Seulement Dieu pouvait faire ça. Nous avons demandé son aide et son aide est venue. Seulement Dieu pouvait faire ça. Et j'aimerais vous dire que où que vous soyez aujourd'hui, quelle que soit votre situation, vous pouvez demander l'aide de Dieu. Puis il n'y a pas un village assez loin, puis il n'y a pas une situation assez éloignée que Dieu ne peut pas aller rejoindre par l'onction de son... Seulement Dieu pouvait faire ça. Seulement Dieu pouvait faire ça. Nous avons demandé son aide et son aide est venue. Seulement Dieu pouvait faire ça. Et quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit la douleur, les choses qu'on t'a fait vivre, quel que soit les déchirements que tu as vécu, l'onction de Dieu peut relever. L'onction de Dieu peut guérir. Partout à travers le pays, il y a des monuments où il est écrit l'inscription « Plus jamais ça ». Vous allez voir les photos qui vont apparaître, et un de ceux-là, il y a une photo de moi avec un des soldats qui était là, et plus jamais ça. Et c'est des monuments où il y a eu des choses particulières et particulièrement atroces qui ont pris place. Et celui-là, à Gitega, où vous nous voyez, est un endroit où, lorsque le génocide a commencé, il y a un professeur d'école, un maître d'école, qui est arrivé en classe et qui a dit, je vais demander à tous les enfants tout petits de se lever. École élémentaire. Ils ont pris les enfants, ils ont mis dans un autobus, ils ont emmené à une station de gaz, ont sorti les boyaux d'essence, ont aspergé les enfants, puis ils ont mis en feu. 70 enfants morts parmi les 250 000, bien sûr. Et alors que tu vois et ils ont mis le monument pour dire, plus jamais ça. Mais partout dans le pays, l'Église est extraordinaire. Parce que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les pasteurs, les leaders qui sont là, pasteurs, les gens d'Église, Hutu et Tutsi, un à côté de l'autre, sont en train de donner un modèle au pays de comment nous pouvons nous relever, de comment nous pouvons pardonner. Il y a un pasteur qui était là, j'ai eu le privilège de l'avoir comme mon interprète, pasteur Étienne, qui c'est pas une histoire qui a été racontée, c'est lui qui l'a vécu, son épouse, des gens étaient là, qui a vécu lorsque le génocide a commencé, la folie s'emparait des gens. Et des jeunes gens de 15, 16, 17 ans sont rentrés chez lui et l'accusaient parce que lui refusait d'attaquer d'autres, l'Église était comme un oasis qui accueillait et cachait toutes sortes de gens. Et là lorsque les jeunes sont rentrés dans sa maison, on les avait armés, ils avaient des armes, ils avaient des machettes. Sa femme est enceinte de 7 mois. Et on dit, aujourd'hui que tu meurs, tu vas mourir aujourd'hui. Ils se sont mis à les frapper, à sacrer, à cracher sur eux. Puis ils ont pris la machette et ils ont attaqué son épouse qui l'ont fendu sur son ventre. Et alors que lui a vu, c'est la fin de ma vie, il s'est mis à genoux et son épouse avec un calme hallucinant. S'est mis à genoux avec le ventre ensanglanté, elle a levé ses bras devant ces jeunes fous qui respiraient le meurtre. Puis elle les connaissait, des jeunes du village, puis elle s'est mis à prier pour eux. Elle a dit, Seigneur, tu es plus grand, et Seigneur, quel que soit ce qui m'arrive à moi, je vais être dans tes bras, mais je prie maintenant pour ces garçons. Tu connais leur douleur, elle s'est mis à intercéder pour eux. Ne leur impute pas cette faute. Seigneur, pardonne-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur, garde-les, Seigneur, protège-les. Lorsqu'elle s'est mis à prier ainsi, les jeunes sont mis à trembler, ils ont jeté leurs armes, se sont sauvés. L'enfant est né en parfaite santé, et moi j'ai assisté à la scène, parce que dans les années qui ont suivi, ces jeunes gens-là ont commencé à revenir, et j'ai assisté à la scène du pasteur qui est dans l'église et qui me pointe, lui, ces jeunes gens qui avaient été fous contre, qui avaient été remplis de violence, sont maintenant revenus à la maison, et le pasteur, avec une grâce que seulement l'Esprit de Dieu peut donner, est un modèle de pardon, ils sont une famille, ils se tiennent main dans la main. Je dis à quiconque ici, ne crois pas les pensées qui te disent que tu peux pas te relever de ce qui t'est arrivé, ou bien ce qui nous est arrivé est trop difficile. L'onction de Dieu est plus grande que toutes nos limitations humaines et peut nous amener dans des sphères. Oh, applaudissez la puissance et la grâce de Dieu. Il n'y a pas de limite à ce que l'onction peut faire pour vous ici aujourd'hui. Psaume 89, j'ai trouvé mon serviteur. J'ai répandu sur lui l'huile d'onction. L'ennemi ne le surprendra pas. Ses forces augmenteront. Je mettrai en pièces ses adversaires. Je ne lui ferai pas défaut dans ma fidélité. Le psaume 65 le dit de cette façon. Que tous les hommes s'approchent de toi, ô toi, Dieu qui écoute les prières. Car par des interventions redoutables, tu nous réponds. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est extraordinaire lorsqu'il agit sur des êtres humains. L'onction de Dieu, je suis revenu du Burundi avec une foi élargie et une soif de voir l'onction de Dieu manifestée au milieu de nous. Est-ce que vous dites amen? Et avec aussi cette farouche détermination de dire, Seigneur, apprends-nous à protéger l'onction, à ne pas la perdre, à ne pas la dilapider, à ne pas l'avorter, à ne pas la voir glisser entre nos mains. Je revenais dans l'avion, j'intercédais, je disais, Seigneur, tellement de gens, tellement de personnes, tellement d'appels qui ont été avortés, tellement aussi de chrétiens. Quelle misère que de vivre une vie chrétienne où j'ai accepté le Seigneur, mais où à travers toutes sortes de décisions que je prends et à travers aussi un aveuglement, je ne protège pas mon onction et je vis une vie chrétienne sans cette grâce, sans cette puissance, sans le surnaturel, où je viens à l'église, mais je goûte jamais réellement au surnaturel. J'espère que vous êtes avec moi. Je ne suis pas intéressé par une religion ou par une autre, qu'elle soit évangélique, ou qu'elle soit pentecôtiste, ou qu'elle soit nouvelle vie. On n'est pas intéressé par une religion, on est intéressé par une relation avec l'onction de Dieu, où nous vivons les choses surnaturelles ensemble. Et j'aimerais vous dire, ce matin, je suis revenu dans l'intercession du Burundi avec cette pensée sur mon cœur. L'onction de Dieu, sans limite, l'onction de Dieu ne peut pas être achetée. L'onction de Dieu ne peut pas être achetée, mais l'onction de Dieu coûte quelque chose. L'onction de Dieu coûte le prix d'hommes et de femmes qui vont se consacrer à lui afin de protéger l'onction sur leur vie. Lorsque Dieu enseigne, et ce matin on commence, c'est l'intro, le dimanche prochain je vais continuer sur comment protéger l'onction de Dieu. Comment la voir, ne pas la perdre, la protéger sur l'Église, sur un ministère, mais sur ma vie, sur ma famille, sur moi, mais aussi comment la multiplier, comment la voir croître et s'approfondir. Et à travers l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'enseignements sur l'onction de Dieu qui est pour notre bénéfice. Dans l'Exode, il dit, prends les meilleurs aromates, les plus coûteuses, celles qui sont de grand prix. Il y a un prix à l'onction. L'onction est accordée et est multipliée sur la vie d'hommes et de femmes qui donnent ce qu'ils ont de mieux à Dieu, qui se donnent entièrement. Tu enmoindras la tente de la rencontre. Tu consacreras tous les objets, tous les ustensiles, tout ce qui était utile pour le service de Dieu, car ils seront très saints. Tout ce qui les touchera, doit être consacré. Je dis à chaque serviteur de Dieu au son de ma voix, je dis à chaque musicien, à chaque chante, à chaque chanteur, à chaque moniteur d'école du dimanche, à chaque personne qui est étudiée à l'ITF, je dis à chaque pasteur qui écoute sa voix, tout ça, la seule chose qui va donner la vie à l'Église du Seigneur, c'est que tout ce que nous faisons soit sous l'onction de Dieu, mais soit aussi consacré pour l'onction de Dieu. Dans la pureté, dans la sainteté, tu consacreras à Aaron les fils et les filles. Il n'y a rien de plus important que la pureté dans votre vie. Rien d'autre ne peut protéger l'onction. De l'Ancien Testament aujourd'hui, les avertissements de Dieu concernant l'onction sont les mêmes pour nous aujourd'hui. Exode 30, 32, l'onction ne sera pas apposée sur l'étranger qui n'a pas été consacré. Elle est sainte. Et vous la regarderez comme telle. Il y a tout un monde chrétien moderne qui se roule dans l'onction et parle de l'onction et chante l'onction et prêche l'onction sans consécration personnelle, sans purification de leur vie, sans ne la regarde pas comme quelque chose qui est saint et séparé. Et bien aimé, je vous dis avec tout l'amour dans mon cœur, nous pouvons faire toutes sortes d'affaires à l'église, chanter des heures et se rouler par terre. Mais lorsque tout est fini, il n'y a pas de puissance sur nos vies réelles et surnaturelles, à moins que nos vies soient pures devant le Seigneur. L'onction ne sera pas apposée sur celui qui ne se consacre pas, sur celui qui ne s'abandonne pas à la sainteté de l'onction de Dieu. Quiconque ne la considérera pas comme sainte sera retranché. Lévitique 21. Le serviteur sur lequel a été répandue l'huile d'onction n'ira pas vers ce qui est mort, ne touchera pas à ce qui est de la mort, ne touchera pas à ce qui est impur. Il ne sortira pas du sanctuaire de Dieu. Vous êtes ici le dimanche et vous allez sortir de la bâtisse, du bâtiment de l'Église. Mais celui qui veut garder et protéger l'onction, même lorsqu'il sort, je vais même dire ceci, la protection de l'onction va être déterminée lorsque vous sortez physiquement du bâtiment par des hommes et des femmes qui disent, qui ont une conviction. Même lorsque je sors du bâtiment physique, je ne sors pas du sanctuaire de Dieu. Je ne sors pas de la volonté de Dieu. Je ne sors pas de la pureté de Dieu dans ma vie. Risquez amen. Non, l'onction ne sortira pas du sanctuaire. L'onction, elle est pure. Il ne profanera pas, ne souillera pas le sanctuaire de Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction. Je suis l'Éternel. Dans les étapes de Jésus envers l'onction, nous le voyons dans Luc chapitre 4, il est rempli de l'Esprit, il est conduit de l'Esprit, mais il est aussi tenté par le diable, tenté par les ténèbres, tenté par le mal, tenté par l'ennemi lui-même, par le diable lui-même. Et alors qu'il est tenté par le diable et qu'il résiste à l'ennemi en disant, il est écrit, dans la prière et la parole, il résiste à l'ennemi. Alors, l'ennemi le quitte pour un moment, mais va revenir. L'ennemi va seulement pour un temps et verra quand il pourra, s'éloignera de lui jusqu'à une autre occasion. Mais alors qu'il a été rempli et conduit de l'Esprit, et alors qu'il a résisté à la tentation, qu'il s'est gardé dans le lieu saint, qu'il n'a pas touché ce qui est de la mort, à ce moment-là, Jésus est capable de dire, « L'onction du Seigneur est sur moi, et il m'a oint pour. » Dans nos vies aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes nés de l'Esprit. Mais laissez-vous conduire par l'Esprit. Le laissez-vous vous parler et vous dire, ça c'est mal, tu dois l'ôter de ta vie. Arrête ceci dans les choses secrètes que Dieu voit. Arrête cela, tu vas avorter l'onction de Dieu. Vous laissez-vous conduire. Lorsque la réunion est finie, que la musique est terminée, when the music dies, et que l'ennemi arrive dans ton visage la semaine, lorsque tu es devant ton internet, ou lorsque tu peux mentir, ou frauder, ou voler, ou aller vers l'immoralité sexuelle, est-ce que tu es cet homme ou cette femme dans la parole et la présence par la grâce de Dieu qui résiste? Et dans cette résistance, tu vas trouver la révélation pour l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Ne sortira pas du lieu saint. Et ce matin, et la semaine prochaine, je veux regarder deux passages dans la parole de Dieu, un ce matin et un dimanche prochain. Afin que cette onction. On va regarder Abraham pendant un instant ce matin dans Genèse chapitre 14. Vous êtes déjà à Genèse 14. On va lire un texte en intro ce matin et découvrir ensemble une clé extrêmement simple mais extrêmement puissante, un secret, une condition afin de protéger l'onction sur notre vie. Lorsqu'on parle d'Abraham, il est notre modèle de foi, modèle d'onction. Ésaïe nous dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez l'Éternel, puis il y a beaucoup de gens dans ce lieu qui poursuivent Dieu, qui cherchent Dieu. Portez les regards sur Abraham. Il est votre père, car quand il était seul, démuni et sans ressources, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Ça, c'est l'onction que nous recherchons. Et lorsque nous regardons Abraham, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire d'Abraham. Il y a beaucoup de moments de sa vie, beaucoup de chrétiens de plus longue date ici, pour regarder différents moments de la vie d'Abraham. Abraham, c'est les grands moments de sa vie. Il a été appelé, sors de la maison de ton père. Abraham, c'est l'intercesseur qui a protégé la ville, qui a intercédé. Abraham, c'est celui qui a offert Isaac. Et tous ces moments sont divins, importants et porteurs de grandes révélations pour nous. Mais nous allons regarder un moment dans la vie d'Abraham ce matin qui est souvent oublié. On regarde par-dessus, nous le négligeons, nous l'oublions, nous ne le connaissons pas. Et je prie que Dieu souffle une fraîche révélation sur vous, parce que dans cette capsule, dans ce moment que nous allons regarder dans un instant dans la vie d'Abraham, vous allez avoir cette première étape sur comment je peux protéger l'onction de Dieu sur ma vie. Comment je peux la protéger et comment je peux la voir multipliée. Ce texte que je vous partage ce matin, Dieu l'a utilisé dans ma vie il y a des années. Il fait partie maintenant de ma vie de tous les jours. Il m'arrive régulièrement, il n'y a pas une semaine qui passe que je n'ai pas ce moment devant Dieu avec ce texte sur mon cœur. Et je prie que Dieu fasse briller une lumière puissante sur ce texte ce matin pour vous. Et il y a quelque chose, il y a une ébullition dans mon esprit. Il y a une ébullition dans mon cœur ce matin parce que j'ai foi, j'ai confiance, pas à cause d'un homme, pas à cause de moi ou d'un ministère, mais à cause du désir de Dieu de vous bénir. J'ai confiance qu'à cause de ce message, des milliers d'entre vous allez apprendre quelque chose qui va faire que votre mariage va être protégé, que votre onction va être protégée, que votre famille va être protégée. J'ai le goût de crier et de déclarer cette matinée de défaite pour les plans des ténèbres et matinée de victoire parce que nous allons protéger l'onction de Dieu. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, des rois étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Vous êtes assis ici ce matin, vous êtes bénis. Vous êtes dans la victoire. Réjouissez-vous. Soyez plein de reconnaissance. Soyez plein d'actions de grâce. Soyez plein de gratitude devant Dieu, mais soyez alerte. Soyez alerte. Parce que le peuple d'Israël, ici Abraham sort de la victoire. Il arrive dans la vallée, il vient de délivrer des captifs, il vient de faire une victoire sur l'ennemi. Le soleil est sur son visage et le vent souffle dans ses cheveux et les gens applaudissent et applaudissent en scandant son nom. Et à travers l'Ancien Testament, nous voyons tous ces moments où Israël connaît un moment de victoire et s'approche tout près d'une plus grande victoire encore. Et à ce moment-là, baisse sa garde et voit l'ennemi venir lui voler son onction. Et Abraham, donc, est dans un moment de grande victoire. Et au verset 18, Melchizedek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il bénit Abraham, il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. » Verset 20, « Béni soit le Dieu Très-Haut qu'il a livré. Il a livré les adversaires entre tes mains. » Verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, donne-moi les âmes et prends pour toi les biens. » Et Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre, et je ne prendrai rien du tout de ce qui est à toi, pas même un fil. » Genèse 15, 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes, « N'aie pas peur, Abraham. » Je serai moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham arrive dans la vallée de Chavé et il y a deux rois dans la vallée. À chaque jour de votre vie, il y a deux rois qui se présentent devant vous dans le monde invisible, très réels, qui vont déterminer quel va être votre présent et votre avenir. Il y a un premier roi qui se présente à Abraham. Et c'est le roi de Salem, il s'appelle Melchizedek, il vient de Jérusalem, il vient de la ville de Dieu, il vient du sanctuaire de Dieu, et il arrive avec le pain et avec le vin. Les théologiens appellent ça des christophanies, des théophanies, des apparitions, des préparations prophétiques et typologiques de Christ qui apparaît dans l'Ancien Testament, parce qu'il est là, il vient du cœur de Dieu, il lui donne la victoire sur ses adversaires, et il arrive avec le pain et le vin. Et à chaque jour de votre vie, vous avez besoin de comprendre que le roi de Salem, que Jésus lui-même, à chaque matin de votre vie, tend ses bras vers toi. Il dit, je viens à toi, je veux être avec toi aujourd'hui, je veux protéger ton onction aujourd'hui. Mon corps, mon sang a été donné pour toi, je suis mort, je suis ressuscité. Et toute la puissance de la résurrection t'est maintenant disponible. Si tu es prêt à vivre ta vie avec moi, on va protéger ton onction et tu vas vaincre tout âme qui a été formée contre toi. Chaque tentation, je vais te pourvoir un moyen pour en sortir, et ma grâce va être plus grande que toutes les tentations des péchés. Quelqu'un devrait dire amen. Mais il y a un autre roi que souvent nous oublions, nous négligeons, nous ignorons dans notre monde moderne. Il y a le roi de Sodome, il vient du lieu Le mot Sodome veut dire « the scorched place », le lieu des flammes, le lieu qui écorche et qui brûle par le feu. Et le roi du lieu des flammes arrive et il dit quelque chose à Abraham. Et je prie que vous l'oubliez jamais, parce que c'est ça que l'ennemi dit à chacun d'entre nous à chaque jour. Il dit à Abraham, « Prends les biens, prends la chair, prends le plaisir, prends la satisfaction momentanée. » Prends l'assouvissement de ta pulsion. Prends les biens. Prends la vie matérielle. Prends le plaisir momentané, éphémère. Prends ça. Je te le donne. Paye-toi la traite là-dedans. Vas-y à fond là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est les âmes. Moi, ce que je veux, c'est l'éternité. Moi, ce que je veux, c'est ton onction. Moi, ce que je veux, c'est ton appel. Et à chaque jour de nos vies, le roi de Sodome vient à chaque homme ou femme au son de ma voix. Chaque jeune homme, jeune fille, chaque pasteur, chaque leader, chaque ministère et chaque maman et papa et jeune homme et jeune fille dans ce lieu. Puis à chaque jour, j'ai le choix de perdre mon onction en m'abandonnant au roi de Sodome, ou j'ai le choix de protéger mon onction en m'abandonnant au roi de Salem à chaque jour de ma vie. Et le secret de la protection de l'onction dans ce texte et dans notre vie, c'est les deux prières d'Abraham et les deux déclarations d'Abraham. Abraham a dit au roi de Salem, je lève mes mains devant le Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré de tous mes adversaires. Je lève mes mains devant celui qui vient avec le pain et le vin. Et ça représente l'abandon, ça représente la dépendance, ça représente la reconnaissance de quelqu'un qui est plus puissant, ça représente ton besoin de quelqu'un comme un enfant qui court vers celui qui l'aime. Et c'est un portrait prophétique. Le cœur me bat à la pensée que tous les hommes et femmes de cette église prendraient ceci au sérieux et qu'à chaque jour, tu réalises que tu ne peux pas vivre par tes propres forces. Alors à chaque matin, tu te lèves et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, pour cette journée, je tends mes mains vers toi, je tends mes mains devant le roi de Salem, j'ai besoin de ton sang, j'ai besoin de ton corps, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton esprit. Et à travers cette journée aujourd'hui, je m'abandonne à toi et je déclare que tu vas me donner la victoire sur mes adversaires. Mais au roi de Sodome, farouche détermination, Abraham dit, et à toi, roi de Sodome, roi des flammes, tu veux me faire vivre dans le matériel, tu veux me faire vivre dans l'assouvissement des plaisirs temporaires, tu veux me faire vivre dans ce qui fait du bien à court terme, tu veux me faire vivre dans ce qui est seulement le matériel, mais tu veux me voler mon âme, tu veux me voler mon appel, tu veux me voler mon onction. Et à toi, je dis, je ne toucherai rien de toi, pas même un fil. Je ne jouerai pas avec un tueur. Je ne donnerai pas d'accès. Jésus a dit, Satan n'a rien trouvé en moi. Je ne donnerai pas une fraîche repentance, une fraîche consécration, un sentiment qui brûlerait sur le cœur de tous les chrétiens modernes qui sont dans ce lieu, de dire, il n'y a pas, le surnaturel va être pour celui ou celle qui va se sanctifier. La puissance va être pour celui ou celle qui va se purifier. L'onction va être relâchée sur celui qui est prêt à ôter des choses de sa vie avec repentance. Et je regarde avec les yeux de la foi et je prie que quelque chose monte en vous. On n'a pas besoin d'une de plus. On n'a pas besoin d'une histoire de plus, une famille de plus, un ministère de plus, un témoignage de plus ruiné, une honte de plus, un scandale de plus. On n'a pas besoin d'une de plus. Il y a quelque chose qui monte en nous et qui dit, j'ai vu ce que le péché fait à des gens, alors je me tiens devant Dieu et je dis, j'ai besoin de toi. Et je dis à mon ennemi, je ne toucherai rien qui est à toi, pas même un fil, que quelqu'un dise amen. Le psalmiste a dit, alors que les musiciens s'approchent, venez voir les œuvres magnifiques que Dieu a fait. Psaume 66. Il est extraordinaire dans son onction lorsqu'il agit sur des êtres humains. Mais le même psalmiste, dans le même psaume, a dit, Dieu, l'onction est plus forte que tout ce que l'ennemi pourrait jeter sur moi ou contre moi. J'ai traversé les eaux, les fleuves, j'ai traversé les flammes et par l'onction, j'ai toujours sorti avec l'abondance de Dieu. Venez, et je vais vous raconter, le verset apparaît à l'écran. Venez, écoutez, vous tous qui cherchez l'Éternel. Je vais vous raconter ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à Dieu, il m'a répondu. Il a rempli ma bouche de ses louanges, et j'ai vu ses exploits. Mais si j'avais couvert de la fraude dans mon âme, amen. Si j'avais caché du péché dans mon âme, le Seigneur ne m'aurait pas répondu. Si j'avais couvert de la fraude, si j'avais donné une place au roi de Sodome, si j'avais baissé les bras devant Dieu, si j'avais mis la main dans ce qui est de la mort, si j'avais quitté le sanctuaire de Dieu, même si personne ne le sait, le Seigneur ne m'aurait pas répondu. Vous vivez ce matin, nous vivons ce matin un moment de destinée. Un moment de destinée en Dieu parce que vous pouvez apprendre quelque chose ce matin et vous pouvez vivre quelque chose, si vous le prenez au sérieux, qui va protéger l'onction de Dieu sur votre vie pour le reste de vos jours. Cette possibilité de ce moment de destinée comme Jésus avec ses disciples. Je termine avec ce dernier verset qui apparaît à l'écran dans l'Évangile de Jean. Lorsque Jésus mit le comble à son amour pour eux, il les aima jusqu'au bout. Mais le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas. Si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'aurait pas pu me répondre. J'aurais lié les mains de Dieu sur ma vie. J'aurais ouvert la porte à ce que l'ennemi vienne dévorer l'onction de Dieu sur ma vie. Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Il les aima passionnément. Toute l'éternité s'ouvrait. Toute l'onction surnaturelle s'ouvrait pour eux. Mais le diable avait déjà mis une pensée dans le cœur de Judas. Et le roi de Salem prit le pain et le vin et il l'offra à Abraham. Et Jésus arrive et il prend le morceau de pain, il le trempe dans le vin et il l'offre à Judas. Il lui offre, et vous avez besoin de comprendre le contexte, c'était une alliance qu'il faisait. C'était pas juste prendre un morceau de pain, je te donne un morceau, quelque chose à manger. C'était une alliance. Selon la pensée de l'Ancien Testament, Jésus arrivait, puis lorsqu'il offrait le pain à Judas, il disait, si tu veux, je t'offre tout de moi. Là, les hommes pouvaient faire des alliances dans l'Ancien Testament et dire, à partir de maintenant, je t'offre le pain, je te rends dans le vin, je t'offre le pain. Si tu veux faire alliance avec moi, tes ennemis sont devenus mes ennemis. Toutes les ceux qui viennent contre toi, je vais les combattre. Toutes mes richesses sont à toi. Ma maison est à toi. Je te quitterai jamais. Je t'abandonnerai jamais. C'est tout ce que Jésus offrait, tout ce qu'il était à Judas. Et Judas a pris le morceau. Il l'a pris extérieurement. S'il aurait été assis à l'église, c'était comme s'il acquiesçait. Mais il couvrait l'iniquité dans son cœur et il s'est mis à courir loin des plans de Dieu, avortant la volonté de Dieu. Je vais le dire avec douceur. Lorsqu'on regarde au bout, lorsqu'on regarde à la fin de Judas, pouvez-vous imaginer la folie, pouvez-vous imaginer la laideur, pouvez-vous imaginer à quel point sournois et mensonger les pensées que l'ennemi a dû mettre dans son cœur. Comment est-ce qu'il a pu croire? Comment est-ce qu'il a pu penser que les pièces d'argent étaient pour lui donner quelques satisfactions? Il y a le Fils de Dieu avec toutes ses richesses devant lui, puis il va le vendre pour quelques pièces. Pouvez-vous l'imaginer pendant ces moments où il pense que ses pièces d'argent vont valoir quoi que ce soit, et lorsque finalement il va courir, puis il va vendre le Seigneur. Lorsqu'il va entendre le roi de Sodome qui lui dit « Prends les biens, moi je veux ton âme » et qui va abdiquer au roi de Sodome. Vous savez, vous connaissez le texte, qu'il n'avait même pas consumé encore son méfait, que la douleur et la culpabilité s'est mis à ronger son âme. T'es pas capable même de vivre. Des chrétiens qui sont ici, qui savent ce que je parle. Alors que l'ennemi vous a tenté, puis mis des tentations, lorsque vous êtes en train même de même pas terminer d'assouvir la chose qui est contraire à Dieu, le vide de ça vous a frappé, le vide de comment je suis mal et comment est-ce que je suis coupable, et quelqu'un d'autre qui dira peut-être, mais moi je me sens pas si coupable que ça. Attention, t'es dans un pire état même. Si le cœur te fait pas mal, t'es encore dans un endroit encore plus dangereux. Lorsque le roi de Salem a proposé le pain et le vin à Judas, extérieurement, tout avait l'air OK, mais son cœur était loin de Dieu. Et moi, ce matin, je me mets devant vous, mais dans le fond, je me mets à côté de vous dans la salle, comme un enfant de Dieu. Si vous êtes avec moi, je tends mes mains devant le roi de Salem, mais je dis, Seigneur, j'ai vu ce portrait. Et je veux protéger l'onction de Dieu sur notre Église. Je veux protéger l'onction de Dieu sur ma vie. Je veux protéger l'onction de Dieu. Par la grâce de Dieu, je dis non au roi de Sodome. Même pas un fil de toi. Je veux, Seigneur, j'entends ta main. Je vois ta main qui m'offre le pain, qui m'offre le vin. Et je le veux, mais je le veux pas seulement extérieurement. Je le veux dans mon cœur. Je veux me sanctifier et me purifier afin de protéger l'onction de Dieu. Et que des milliers dans ce lieu disent Amen ce matin. Nous voici. Nous nous offrons à toi. Applaudissez la protection de l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Penchez la tête pendant un moment. Je prie pour des maris, Seigneur, dans ce lieu. Je prie pour des époux. Je prie pour des jeunes. Je prie pour des pasteurs qui vont entendre ce message. Je prie pour des leaders. Je prie pour ceux qui ont un appel sur leur vie. Je dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce matin, Seigneur, nous voulons protéger l'onction de Dieu sur nos vies,
ce matin va être un jour de défaite terrible pour les tréfonds de l'enfer. Nous avons entendu la voix de Dieu qui dit, parce que tu as fait cela, après ces événements, la voix de Dieu qui dit, n'aie plus peur, ta récompense va être grande, ton onction va être accentuée, parce que tu as dit non au roi de Sodome, et que tu t'es abandonné dans les bras de Dieu. Tu as levé tes mains devant Dieu. Je prie pour une nouvelle sanctification. Je prie pour une révélation à tous les hommes et les femmes de cette église, des jeunes de cette église, que celui qui résiste va recevoir, que celui qui se purifie va posséder, que celui qui va se sanctifier va connaître le surnaturel, que celui qui va se repentir et ôter de sa vie ce qui doit être ôté va recevoir la récompense et va recevoir l'onction. Tu prends le pain, tu nous l'offres. Tu offres de faire alliance avec nous. Tu le trempes dans ton sang. Et ce matin, nous considérons ton onction avec sérieux. Et nous disons, oui Seigneur, nous voulons faire alliance avec toi. Je veux être pur. Purifie mon cœur, mon Dieu. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Protège, Seigneur, les hommes et les femmes et les familles de tout ce qui pourrait être de la souillure ou de l'impureté. Si j'avais couvert de l'amertume, si j'avais couvert de la rancune, si j'avais couvert du mensonge, si j'avais couvert de la dureté et du mépris dans mon cœur, si j'avais couvert de l'immoralité dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas pu me répondre. Je veux venir à lui et lui offrir tout ce matin et tout dévoiler devant lui et lui dire, viens maintenant mon Dieu. Je dis non au roi de Sodome et je dis oui au roi de Salem. Je tends mes mains vers lui afin de protéger ton onction sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Et ceux qui désirent le faire ce matin, j'aimerais vous inviter à vous lever avec moi. Littéralement, je suis moi debout, hein, parce que moi je veux le faire avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, purifie mon cœur? Commencez tout de suite, avant même de chanter, partout à travers ce lieu, tendre nos mains vers Dieu, commencez à dire, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur. Laissez-moi entendre la prière d'un peuple partout à travers ce lieu qui a soif de l'onction par la grâce de Dieu. Et par l'appel de Dieu, il y a des jours nouveaux qui prennent place dans tous les pays du monde. Et à travers la francophonie, il y a une portion pour nous ici à Longueuil. Il y a une portion, nous sommes reconnaissants. Il n'y a pas d'ingratitude dans nos cœurs pour la mesure d'onction que nous avons eue jusqu'à maintenant. Merci pour ce que nous avons eu. Mais est-ce qu'il y a un peuple à l'Église Nouvelle Vie qui a soif pour une nouvelle mesure de l'onction de Dieu? Une mesure de signes et de prodiges, une mesure de conversion, une mesure de guérison, une mesure de délivrance. Et cette mesure est pour le peuple qui va dire, Seigneur, je ne quitte plus ton lieu saint. Je vais sortir de l'église parce que je dois vaquer, je dois aller à mes affaires, je vais aller dans ce monde, mais je suis dans ton sanctuaire, je suis dans ta pureté, je suis dans tes commandements et je veux vivre pour toi. Laissez-moi voir vos mains, comme Abraham l'a fait il y a des millénaires. Est-ce que je peux voir vos mains se tendre vers Dieu? Je tends mes mains vers le Dieu, l'Éternel qui me donne la victoire sur mes adversaires. Et je prie, prions ensemble, purifie mon cœur, prions ensemble. Oh, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Je n'ai qu'un désir. Être saint. Mis à part pour toi, mon Seigneur. Oui, je choisis. D'être saint. Toi, mon seul maître, toujours prêt à t'obéir.
Levons nos voix, levons nos cœurs, chantons les prières ensemble.
Oh, purifie mon cœur.
Enseigne-moi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.